VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, les résultats du second tour de la présidentielle de dimanche sont attendus aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, consultation de l'opposition pour présenter un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Et RDC toujours, 41 décès liés dans le nord-est à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola.
Au Sénégal, le militant écologiste et ancien ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, condamné hier à 3 mois de prison avec sursis pour diffamation.
À Londres, arrestation d'un homme soupçonné de terrorisme après l'attaque à la voiture Bélier d'hier à Londres.
À Gênes, en Italie, une trentaine de personnes ont été tuées dans l'effondrement du viaduc autoroutier, selon le ministre de l'Intérieur.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, c'est aujourd'hui que doivent être annoncés les résultats provisoires du second tour de la présidentielle de dimanche. Le parti du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a estimé hier qu'il sera réélu avant même l'annonce officielle des résultats qui sont déjà rejetés par l'opposant Soumaïla Cissé. Les Nations Unies et l'Union Européenne appellent au calme. Irénée Herman Oungbo fait le point.
Nous attendons avec sérénité les résultats officiels qui vont être communiqués par les autorités compétentes, a déclaré Boukari Traita, directeur de campagne du candidat Ibeka. Il renchérit disant que le président Ibrahim Boubacar Keïta sera réélu de manière large et confortable. La veille, l'opposant Soumaïla Cissé avait appelé les Maliens à se lever face à des résultats qu'il rejetait d'emblée car, selon lui, entachés de fraude. La responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est dans le camp du président de la République, avertit le chef de file de l'opposition malienne. À New York, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à conserver le calme jusqu'à la conclusion du processus électoral. À Bamako, la mission d'observation de l'Union européenne exhorte les candidats à la retenue dans l'attente des résultats.
Au Sénégal, le militant écologiste et ancien ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis pour diffamation. Un responsable des exploitants forestiers sénégalais avait porté plainte contre lui. Le point avec Morgane Guériec.
Ali Haïdar a indiqué qu'il va faire appel de cette décision. Le défenseur de l'environnement doit en outre payer 2 millions de francs CFA d'amende à Abdoulaye Sow, président de l'Union nationale des exploitants forestiers au Sénégal, à l'origine de la plainte. Selon la presse locale, en janvier 2018, Monsieur Haïdar avait cité le président de l'UNEF parmi les trafiquants de bois qui risquent de faire disparaître les forêts de Casamance. La controverse faisait suite au massacre, le 6 janvier, de 14 jeunes dans la forêt de Bayotte, près de Ziguinchor. Pour la justice sénégalaise, ce massacre a été commandité et exécuté par des villageois avec le concours de membres d'une faction de la rébellion. 24 suspects ont déjà été arrêtés et inculpés. Par ailleurs, 4 exploitants forestiers disparus depuis le 5 août sont toujours recherchés par les forces de sécurité en Casamance.
En République démocratique du Congo, un partisan du président Joseph Kabila a accusé hier son adversaire Moïse Katumbi d'avoir une identité confuse. Ce dernier affirme avoir été empêché de rentrer au Congo pour se présenter à la prochaine présidentielle. Pour le porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundu, Moïse Katumbi a une identité confuse du fait d'avoir renoncé à la nationalité italienne sans avoir fait une quelconque démarche de recouvrement de la nationalité congolaise auprès du gouvernement. L'avocat parisien de M. Katumbi, Éric Dupont-Moretti, a réfuté cette accusation de double nationalité interdite par la loi congolaise. Nous reviendrons sur l'actualité électorale en RDC en seconde partie de cette édition.
RDC toujours, il y a dans le nord-est au moins 41 décès liés à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Le point avec Raissa Girondin.
À la date du 13 août, il y a un total de 41 décès, a déclaré une porte-parole de l'OMS à Genève. Selon le ministère congolais de la Santé, 57 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région de Beni, dont 30 cas confirmés et 27 probables. 7 membres du personnel de santé ont été contaminés et 74 confinés à domicile pour avoir été en contact avec des malades. Ils vont faire l'objet d'un suivi de 21 jours. Une fillette de 13 ans a été déclarée guérie à Beni et 216 personnes ont été vaccinées. Les équipes médicales à Beni et Mangina, l'épicentre de l'épidémie, ont commencé à utiliser pour la première fois la molécule thérapeutique MAP-114. Elle a été administrée à 5 personnes qui réagissent bien, selon le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui revient de Beni. Il a lancé un appel à la cessation des hostilités dans le Nord Kivu, qui abrite de nombreux groupes rebelles.
En Angola, un soldat qui avait tué un adolescent par balle lors d'une manifestation d'habitants contre la démolition de leur maison à Luanda en 2016 a été condamné hier à 18 ans de prison. 3 autres militaires ayant tiré lors de la manifestation ont été condamnés à 1 an d'incarcération.
Aux Comores, le procureur de la République, Mohamed Abdoua, a accusé hier 8 personnes arrêtées la semaine dernière d'avoir tenté d'organiser un coup et de vouloir commettre un acte terroriste. Une vague d'arrestations avait eu lieu la semaine dernière dans le sillage du référendum constitutionnel du 30 juillet qui avait été accompagné d'autres arrestations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Londres, la police a arrêté un homme d'une 20aine d'années soupçonné de terrorisme après qu'il a attaqué à la voiture Bélier un groupe de piétons et de cyclistes et percuté une barrière de sécurité devant le Parlement britannique. On déplore 3 blessés. Selon les autorités, le suspect était le seul occupant du véhicule et aucune arme n'a été trouvée dans sa voiture.
En Italie, les sauveteurs luttaient dans la nuit de mardi à mercredi pour tenter de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier qui s'est effondré à Gênes dans le nord, faisant un bilan encore provisoire d'une 30aine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves selon le ministre de l'Intérieur. L'effondrement soudain de cet ouvrage massif appelé Pont Morandi a précipité véhicules et passagers dans le vide d'une hauteur de 45 mètres.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier le boycott des appareils électroniques américains, poursuivant ainsi une escalade des tensions avec les États-Unis et mettant au supplice la livre turque, qui semblait toutefois se stabiliser. Dans un discours virulent à Ankara, M. Erdogan a déclaré « S'ils ont des iPhones, il y a des Samsung de l'autre côté ». Washington et Ankara traversent actuellement une crise diplomatique liée à la détention du pasteur américain Andrew Brunson et qui a conduit ses 2 alliés au sein de l'OTAN à s'imposer des sanctions réciproques en août.
Le chef du puissant mouvement chiite libanais du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a vivement critiqué les appels récurrents d'Israël en faveur d'un retrait de sa milice et de son parrain iranien, tous deux acteurs clés de la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Dans un discours télévisé mardi à l'occasion du 12e anniversaire de la fin de la guerre de juillet-août 2006, ayant opposé son mouvement à l'armée israélienne, Hassan Nasrallah a qualifié de culot l'existence ou l'exigence israélienne. Le culot est qu'Israël, vaincu en Syrie, veut imposer des conditions, a-t-il ironisé.
En Palestine, dans la ville de Jéricho, les fonctionnaires de la poste font des heures supplémentaires pour trier et transférer plus de 10 tonnes de courriers et paquets bloqués depuis 8 ans par Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les gros sacs colorés contenant des enveloppes noircies et des paquets en tout genre sont entassés dans un centre de tri de la poste de Jéricho. Les employés travaillent d'arrache-pied. Ramadan Gazaoui, un des responsables, avance que ses colis ont été bloqués en Jordanie par Israël pour des raisons administratives ou sécuritaires. Ses équipes ont besoin d'au moins 2 semaines pour trier les paquets et les livrer à leur destinataire s'ils sont encore vivants. Ces colis, envoyés entre 2010 et 2018, étaient retenus par les autorités israéliennes qui ont empêché leur entrée en Cisjordanie occupée. Un fauteuil roulant a été envoyé en 2015 de Turquie à destination de la bande de Gaza. Beaucoup d'objets ont été commandés en ligne par des Palestiniens. Certains paquets ont été endommagés. Pour éviter d'éventuelles plaintes, la poste a prévu d'ajouter un mot pour prévenir les destinataires. D'après Israël, la remise de cette tonne de courrier fait partie des mesures prises pour renforcer la confiance entre Israéliens et Palestiniens après un accord conclu il y a 1 an, mais qui a tardé dans sa mise en œuvre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le Gabon a déjà bénéficié $1 milliard de financement de la Banque africaine de développement. C'est ce qu'a déclaré Robert Massoumbouko, le représentant de la BAD au Gabon, à l'ouverture de la revue des financements. Pour la BAD, le gouvernement gabonais doit orienter ses priorités vers les activités génératrices d'emplois et de richesses, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'industrie et l'entrepreneuriat. Baisse des exportations au premier semestre 2018 au Sénégal. Selon la direction de la prévision et des études économiques, les baisses dans les secteurs du ciment et des produits pétroliers sont responsables de cette baisse de 2,6%. Par contre, les exportations d'or brut, d'acide phosphorique et de produits alimentaires se sont consolidées. Coca-Cola a annoncé une prise de participation minoritaire dans les boissons énergisantes Body Armor, dont l'un des premiers actionnaires est l'ex-star du basketball Kobe Bryant. Et ce, pour concurrencer Gatorade de Pepsi-Cola, marque prisée par les sportifs. Coca-Cola dispose déjà de Powerade, mais qui a cédé du terrain face à Gatorade. Le géant des boissons non alcoolisées est par ailleurs affecté par le déclin de la consommation des sodas aux États-Unis et cherche à diversifier son portefeuille.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa, bonjour à tous.
Congo-Brazzaville, finale de la Coupe nationale, les Diables Noirs vainqueurs au tir au but.
Et oui, le club de Pointe-Noire s'est adjugé le trophée devant l'AS Otoho après la séance fatidique des tirs au but. 5 tirs au but à 3, le score était 0-0 à la fin des 120 minutes de jeu. Les Diables Noirs représenteront donc le Congo-Brazzaville pour la prochaine Coupe de la Confédération.
La Supercoupe d'Europe, ce soir, ira à un club espagnol.
Premier match officiel et premier titre en jeu ce soir pour Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real Madrid qui inaugure ses fonctions en Supercoupe d'Europe contre l'Atlético Madrid. C'est à Tallinn en Estonie, dans un derby madrilène avec la suprématie continentale en jeu. Même si le club merengue semble favori pour rejoindre le FC Barcelone et le Milan AC en tête du palmarès de l'épreuve avec 5 trophées, gare au coéquipier d'Antoine Griezmann, tenant de l'Europa League et invaincu en Supercoupe, les Colchoneros, 2 participations de sacre, c'était en 2010 et en 2012.
La FIFA menace 2 fédérations africaines.
Oui, cela concerne d'abord le Nigeria. La FIFA demande que le président de la fédération de football, Amadou Melvin Pinnick, dûment élu le 30 septembre 2014, retrouve ses pouvoirs, tout comme le comité exécutif. Si ce n'est pas le cas, la fédération sera suspendue avec effet immédiat et l'instance souligne que cette suspension prendra effet également sur l'équipe féminine des moins de 20 ans actuellement engagée en France pour la Coupe du Monde. Quant à la fédération du Ghana, la FIFA menace également de la suspendre suite à la démission du président Kwesi Nyantaki pour des soupçons de corruption. On se souvient que la justice ghanéenne avait demandé la dissolution, ce qui constitue, selon la FIFA, une ingérence. La Fédération ghanéenne de football a jusqu'au 27 août pour revenir sur sa décision.
Football, c'est la saison des transferts.
On en parlait déjà hier, le milieu international français de Chelsea, Tiemoué Bakayoko, est donc prêté officiellement au Milan AC. Le joueur de 23 ans avec seulement une seule saison chez les Blues. Bakayoko s'est engagé avec le Milan AC pour 5 millions d'euros avec une option d'achat de 35 millions d'euros l'été prochain. On se souvient que ce joueur de 23 ans avait été transféré l'année dernière pour 45 millions d'euros de Monaco à Chelsea. Le comeback inattendu du défenseur Stéphane Mbia qui doit s'engager avec Toulouse. Le Camerounais est arrivé lundi dans l'Hexagone pour s'engager avec le club toulousain. Et puis c'est tombé hier soir, Steven Zonzi, le champion du monde français, s'engage avec l'AS Rome pour une opération de 30 millions d'euros. Bonus compris.
Bakambu est en forme en Chine.
Ah oui, 13 buts en 13 matchs. Cédric Bakambu s'éclate en Chine. Hier, l'attaquant congolais, ancien attaquant de Villarreal, a inscrit un doublé lors du succès de Beijing Gohan contre le Dalian Yifang, 5 buts à 2.
L'Éthiopie fait les yeux doux à son champion Lilesa.
L'Éthiopie a demandé au marathonien Feyisa Lilesa, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, de rentrer dans son pays. On sait que Lilesa, 28 ans, vit en exil aux États-Unis de sa propre initiative. On se souvient qu'à Rio, il avait symboliquement croisé les poignets en passant la ligne d'arrivée du marathon olympique pour protester contre la répression brutale de son ethnie, les Oromo. Quant au comité olympique et à la fédération d'athlétisme, elles ont, dans une lettre ouverte, demandé que Lilesa reprenne sa carrière dans et pour son pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'est donc aujourd'hui en principe que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation doit donner les résultats provisoires du second tour de la présidentielle, ce qui pourrait mettre un terme à la polémique entourant ces résultats avant même leur publication. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Après Soumaïla Cissé, c'est son directeur de campagne qui revient à la charge avec des arguments concernant la fraude massive dans les régions nord du Mali. Tcheblen Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Nous rejetons les résultats attribués au président sortant dans plusieurs localités du nord, notamment dans le cercle de Gourmararous, où il n'y a pas eu d'opération de vote dans plusieurs communes. L'on a attribué au candidat Ibrahim Boubacar Keïta 30 674 voix et à Soumaïla Cissé 6 467. Nous demandons aujourd'hui et maintenant, pour des raisons de transparence, la publication des résultats bureau par bureau, les résultats de chaque bureau de vote.
Au siège de la coalition Ensemble pour le Mali, l'on joue à la sérénité. Bokari Treta, directeur de campagne du candidat Ibeka.
L'alliance Ensemble pour le Mali s'insurge contre les allégations de fraude qui sont proférées par certains. L'alliance Ensemble pour le Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse du bulletin de vote qui avait été exhibé par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Un conseiller communal de l'URD est actuellement aux mains de la justice pour répondre de ses actes.
Les Bamakois suivent avec intérêt ces jeux de ping-pong et de contestation des résultats. Abdoulaye Fama Koulibaly, journaliste.
Parce qu'il avait dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du premier tour. Pourquoi il s'est retrouvé au second tour? Il ne respecte pas ce qu'il dit. Alors, ce serait la même chose. Il a rejeté, et quand les résultats vont être donnés par l'administration et par la Cour constitutionnelle, il va se plier comme il s'est plié au premier tour. Mais il avait fait preuve de fair play en allant au second tour, malgré son rejet des résultats de ce premier tour.
Dans les milieux universitaires, on pense que c'est un jeu politique qui a son intérêt pour les protagonistes. Nabilaï Sogoba.
Je crois que pour un besoin de clarité, le ministère de l'administration territoriale des organes en charge de l'organisation des élections ont vraiment le devoir de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et de l'autre côté, pourquoi tous les deux camps ont de résultats? Parce que au niveau des deux camps, il y a des commissions de centralisation. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de doute, il n'y aura pas de doute pour ces élections-là.
Force doit rester à la loi. C'est ce que pense Fakara Fainke, communicant.
Ça, c'est des stratégies politiques. Il y a eu des précédents. C'est pour éventuellement faire effrayer l'adversaire. Mais je crois que tout ça, la loi a interdit ces choses-là. Les candidats doivent savoir et raison garder vraiment de s'en tenir vraiment à l'administration territoriale, à la Cour constitutionnelle. Et c'est avec ces instances vraiment pour être sûr qu'il y aura des décisions respectables et respectées.
Cette contestation des résultats pourra connaître son épilogue aujourd'hui avec la proclamation des résultats provisoires au niveau du ministère de l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, l'opposant Biram Daoud Abeid, président d'une ONG anti-esclavagiste et candidat aux élections législatives du 1er septembre, a été inculpé et emprisonné. La campagne pour les législatives démarre dans 48 heures. Idriss Fall a joint à Nouakchott Bala Touré, membre du bureau du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie.
Biram Daoud a été inculpé et déposé à la prison civile de Nouakchott suite, soi-disant, à la plainte d'un journaliste. Après avoir été détenu au commissariat pendant 6 jours, il a été présenté au procureur, qui l'a confié au juge d'instruction. que celui-là a décidé de son dépôt à la prison.
Et comment un journaliste peut-il porter plainte contre un homme politique? C'est quel type de journaliste?
Ce journaliste avait fait un entretien avec le président Biram qui a duré 3 heures d'horloge. Après avoir enregistré l'entretien, nous sommes restés 2 semaines. Après cela, on a vu sur les réseaux sociaux un documentaire, j'allais dire un montage, qui faisait ressortir à peu près qu'une dizaine de minutes de temps d'antenne de Biram. Et dans cet enregistrement, dans ce montage, il croise les propos de Biram avec ceux d'autres individus qui sont contre nous et qui s'acharnent sur nous. Donc c'était un peu un documentaire en charge contre nous. Et Biram n'a pas apprécié. Mais son mécontentement. Il s'en est suivi un échange de propos un peu houleux. Et c'est suite à cela qu'il a porté plainte comme quoi Biram non seulement l'a insulté et que Biram l'a menacé.
Qu'est-ce qui risque de se passer avec Biram d'autant que les élections législatives approchent et il est candidat?
Oui, il est candidat. Dans 72 heures, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Ce qui va se passer, c'est que Biram ne fera pas campagne. Et nous pensons que c'est le mobile essentiel de son arrestation et de son inculpation. Puisque nous avons appris du procureur que cette plainte aurait été déposée il y a plus d'un mois de cela. Nous sommes étonnés de cet agenda, nous sommes étonnés du calendrier. Pourquoi les autorités n'ont choisi qu'aujourd'hui? Ils veulent tout simplement empêcher le candidat Biram de battre campagne.
Mais Biram Oulda Abeid est un habitué des prisons en Mauritanie. Pourquoi cette sorte d'acharnement?
Oui, cet acharnement, nous pensons que c'est tout simplement dû au fait de sa popularité. Lui et le groupe dans lequel nous sommes est un groupe populaire qui traverse son aile politique. Aujourd'hui est en compétition un peu partout en Mauritanie, dans tous les départements de la Mauritanie. Donc cette popularité qui va se traduire par le choix des électeurs dans les urnes, c'est peur aux autorités, c'est tout. Il faut empêcher le candidat Biram le maximum possible, empêcher ses amis d'accéder à l'Assemblée et de conquérir les conseils régionaux et municipaux.
Balla Touré, membre du bureau du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des opposants candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain en discussion à Kinshasa pour se choisir un candidat commun. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, l'exilé Moïse Katumbi et Freddy Matungulu ont en effet promis de joindre leurs efforts pour remporter cette élection. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ils sont finalement 6 à avoir réaffirmé leur volonté de cheminer ensemble et de se désigner un candidat unique comme porte-drapeau de l'opposition à la prochaine présidentielle. 5 de ces 6 candidats présidents de la République ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante la semaine dernière. Et en attendant la publication de la liste définitive, ils ont maintenu à travers une déclaration commune leur détermination à atteindre cet objectif. C'est Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba qui a lu ce communiqué.
Les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Tshapwe, Vital Kamerhe, Martin Fayulu Madidi, Matungulu Mouyam, poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaise.
Vital Kamerhe s'attend à des discussions rudes, mais le candidat de l'Union pour la Nation congolaise, troisième à la présidentielle de 2011, soutient et réitère la volonté de ses leaders de l'opposition de gouverner ensemble.
Avec Moïse Katumbi, avec Félix Tshisekedi, avec Bemba, nous avons réaffirmé une seule chose. Nous voulons nous engager solennellement à donner au peuple congolais un seul candidat. Chacun de nous doit être flexible. Les discussions seront rudes, mais réfléchies. Ici, nous avons décidé de gouverner ensemble.
Candidature commune de l'opposition, c'est également le vœu de Martin Fayulu qui promet une implication sans faille pour y parvenir.
Je ferai partie de toutes les réunions de l'opposition qui feront en sorte que nous puissions arriver à avoir une candidature commune.
Démarrée à Kinshasa, les discussions entre ces leaders de l'opposition vont se poursuivre en septembre prochain en Europe afin qu'y soit associé Moïse Katumbi qui n'a pas pu rentrer au pays dans le délai pour déposer sa candidature selon Félix Tshisekedi.
Nous allons avoir
une rencontre importante au mois de septembre à l'extérieur du pays, malheureusement, parce que certains d'entre nous ne peuvent pas revenir ici. Je pense à mon frère Moïse Katumbi.
La population, elle, est partagée entre espoir et scepticisme. Elle craint que, comme en 2006 et en 2011, les égos de certains opposants puissent l'emporter sur la raison.
Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez de chance parce qu'on voit déjà plusieurs opposants qui ont déposé leur candidature. Du coup, on ne sait pas qui va accepter de laisser tomber pour laisser la place à la personne qui sera choisie.
Mon souhait, c'est celui de voir l'opposition réunie pour trouver un candidat consensuel, pour battre la personne présentée par la majorité présidentielle actuelle. L'opposition doit être unie et s'ils allaient aux élections avec cette unité, je crois qu'ils ont 80 à 90% de remporter les élections.
Mais justement, c'est l'orgueil qu'ils ont. Si eux-mêmes se réunissaient comme la majorité l'a fait, sortir une personne, ça fera la force de tout le monde.
Je crois qu'ils ont toutes les chances de se trouver un candidat pourvu que la bonne volonté puisse s'exprimer dans leur discussion.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat, et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a 2 ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Revenons maintenant avec notre correspondant Emmanuel Jules Tappe sur le Cameroun et les réactions suscitées par les mesures prises après la publication d'une vidéo montrant des soldats exécuter sommairement des personnes soupçonnées de soutien à Boko Haram, l'organisation intégriste nigériane. On l'écoute.
Le président de la République ne saurait rester silencieux. Maintenant que le gouvernement a concédé de dire la vérité sur l'affaire d'exécution sommaire de civils dans la région de l'extrême nord, cette position est soutenue par le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Il est du devoir du chef des armées de ne pas être simplement chef des armées quand c'est bien, mais il doit assumer aussi ses responsabilités. Est-ce que le président a été bien informé dans cette affaire? Est-ce que ceux qui sont en charge de la défense, ministre de la défense délégué auprès du président de la République, ont fait leur travail comme il le fallait pour attendre d'abord qu'on traîne le Cameroun dans la boue? Cette image est sans précédent. Même sous le régime nazi, on séparait les enfants des parents.
Pour le Social Democratic Front, principal parti de l'opposition, le mensonge d'État sur cette affaire est scandaleux. Les têtes doivent tomber par conséquent. Aloïse Parfum Vum, président du Social Democratic Front Yaoundé 4e.
Il y aurait déjà eu beaucoup de démissions. Celle du chargé de la communication de la défense, du ministre de la défense, qui lui-même a même attribué cela à un activiste aux États-Unis, et surtout celle du ministre de la Communication, qui n'a pas eu froid aux yeux de venir dire que c'était un fake news et qui aujourd'hui se rebiffe.
Les organismes de défense des droits de l'homme au Cameroun attendent pour leur part suivre de près le procès des 7 militaires mis aux arrêts afin que justice soit rendue. Jean-Claude Fognon, secrétaire permanent de l'ONG Mandela Center.
Le Cameroun doit se conformer à ses engagements internationaux. Chaque fois qu'il y a un cas de crime ou un cas de torture, signaler son territoire, d'enquêter, de punir les responsables. Nous allons veiller à ce que ces militaires impliqués dans les actes odieux soient purement sanctionnés. Que ce soit la loi Cameroun, que ce soit le droit international humanitaire, prévoit un emprisonnement à vie, dans la perpétuité à ces militaires-là.
Dans les rues de Yaoundé, le concept armée-nation, allusion à une plus grande collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité camerounaises, a pris du plomb dans l'aile, selon Jean-Pierre, habitant de Yaoundé.
Je sais que c'est l'armée qui est censée protéger les civils. Lorsque l'armée s'attaque à des citoyens sans défense comme ça, et à plus une femme et une nouveau-née, ça fait peur, ça suscite beaucoup d'interrogations. On ne sait même plus ou se mettre la tête.
Une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et montrant des exactions sur les civils pourrait encore éclabousser l'armée camerounaise dans le prochain jour. Le porte-parole du gouvernement a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette autre vidéo qui aurait été tournée dans la région de l'extrême nord. Yaoundé, Emmanuel Jounoutab, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Glenn Hollis. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.